Oh, je suis heureux de partager avec vous la parole de Dieu qui se trouve pour nous ce matin dans le deuxième livre des rois. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2. Deuxième livre des rois, au chapitre 2. Voilà, je vous salue vraiment, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce temps. Que vous soyez ici présent ou que vous soyez sur Internet, sur notre site Internet, on est très heureux que Dieu soit juste à la porte, prêt à vous parler. Si vous êtes prêt à ouvrir votre porte ce matin, Dieu va vous parler. On est dans le deuxième livre des rois, et c'est une transition de la Bible, puisque le premier livre des rois a été marqué par un homme de Dieu extraordinaire qui s'appelle le prophète Élie. Élie, c'est un homme de Dieu qui a été celui de la repentance d'Israël, qui a vu les miracles comme au Carmel, qui a compté sur Dieu à Sarepta, qui a compté sur Dieu lorsqu'il était au torrent de Kérit. Il en a vu des choses, le père, le grand-père Élie. Quel homme de Dieu! Mais vous voyez, il y a des moments de transition où la Bible bascule vers un autre homme que Dieu appelle à son service. Et c'est le texte de ce matin, c'est le texte qui concerne le prophète Élisée. Élisée. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Élisée a pris un nom qui reprend une partie du nom de Élie. Et vous allez voir, tout ça c'est important parce qu'on se retrouve au chapitre 2. On va lire ensemble à partir du verset 19. Les habitants de la ville, donc de Jéricho, hein, c'est la ville de Jéricho dont il est parlé ici, vinrent dire à Élisée, il vient de succéder à Élie, « Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine. » Et la terre est infertile. Il répondit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux. Il jeta du sel et dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. » Et les eaux devinrent saines, et le sont restés jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Une parole de bénédiction. Vous avez en vous la possibilité de bénir ceux qui sont dans votre entourage. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'Élisée fait une expérience magnifique. Ce jour-là, il prononce une parole de la part de Dieu, et cette parole donne la vie à un endroit qui était mort. Normalement, vous devriez être capable de dire « Amen ». Si vous n'êtes pas « Amen » là, vous le direz difficilement. Alors, on va à la suite. On quitte le verset 22 et on passe au verset 23. De Jéricho, donc le même homme de Dieu, rempli de l'Esprit, quelques minutes plus tard, se rendit à Bethel pendant qu'il montait sur la route. Des jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Vas-y, chauve !» « Vas-y, chauve !» Il se retourna pour les regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, deux ours sortirent de la forêt. Oui, c'est bien le texte. Hein. On est toujours dans le même prophète, on est toujours dans le même texte. Il appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Ah, beaucoup moins d'amen. Et vous avez raison peut-être, parce que vous êtes gênés. Moi aussi, je suis gêné. Alors vous voyez, j'ai entendu beaucoup de pasteurs prêcher sur l'eau qui devient saine. J'ai entendu des prédications sur quand Dieu met du sel et que quelque chose qui était impur devient pur. J'ai entendu des Amen, des Alléluia sur les miracles de Dieu. Comment un homme de Dieu comme Élisée, lorsqu'il reprend le flambeau derrière, il est capable d'apporter une bénédiction aussi grande que son prédécesseur. Et après, je suis gêné, vous voyez, au verset 23. Je suis gêné parce que c'est le même homme de Dieu. Et ce n'est plus une parole de bénédiction qui dit du bien, mais c'est de sa bouche sort une parole de malédiction. Cet homme-là, au début de sa journée, a donné la vie. À la fin de cette journée, il donnera la mort. Cet homme-là a sauvé une ville où des mamans, des papas vont aller boire de l'eau et vont bénir Dieu. Et ce même homme de Dieu, à la fin de la journée, va provoquer des cris de hurlement dans des familles parce qu'ils vont enterrer le gamin de 14 ans qui a été certainement stupide, mais qui est mort ce jour-là parce qu'un homme de Dieu a apporté une parole de malédiction. Vous savez la différence ? Vous savez pourquoi on peut basculer comme ça ? J'ai eu du mal, hein ? J'ai jamais entendu de message là-dessus. J'ai eu du mal à chercher, mais je dis, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux nous apprendre par là. Et puis j'ai entendu le mot « vas-y, chauve ». Et je me suis dit, ce qui a provoqué que l'on passe de la bénédiction à malédiction, c'est un complexe. C'est parce que cet homme de Dieu, au lieu de parler comme il avait fait de la part de l'Éternel, parce que la première parole concernant l'eau assainie, c'était de la part de l'Éternel, la deuxième parole, ça ne viendra pas de l'Éternel, ça viendra de son cœur à lui, et son cœur est rempli de complexes. Cet homme est un homme qui est atteint de calvitie, duquel des enfants, certainement stupides, j'en conviens, sont en train de se moquer, et son complexe fait que cet homme de Dieu devient un homme de malédiction. Et je me dis, quel malheur ! Le titre de mon message ce matin, c'est la malédiction des complexes. La malédiction de tes complexes. Parce que si tu ne travailles pas sur tes complexes, il n'y a plus du tout de bruit dans cette salle. Si tu ne travailles pas sur tes complexes, tu apporteras la mort autour de toi. Vous savez, Élisée, il souffre quand ces jeunes lui crient, se moquent de lui. Ça lui rappelle certainement d'autres qui se sont moqués de lui avant. Et là, son sang ne fait qu'un tour et réagit d'une façon extrêmement charnelle. Et toi, quels sont tes complexes ? Vous savez, je parle de la calvitie de cet homme génial qui est Élisée pourtant. Et je me dis, quand vous avez un complexe, quand vous avez un défaut, ça vous change un homme. Hein ? Je vais vous obliger à vous débloquer parce que je vous sens un peu tétanisé. Regardez Georges, vous le connaissez autrement, voici avec un petit peu de Photoshop ce que donnerait Georges Clooney. Il reste pas mal, mais c'est pas pareil. Là, vous voyez, s'il rentre dans un magasin pour aller chercher une capsule Nespresso, c'est pas what else, ça serait vraiment un client, quoi, qui a certainement un bon fond. Mais vous ne retournez plus forcément sur lui, vous voyez ? Parce qu'il atteint calvitie. Alors maintenant, je vous regarde vous et je vous dis, c'est quoi votre complexe ? Oh, c'est peut-être pas forcément un complexe physique. Oh, on a tous peut-être un complexe physique quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas un complexe par rapport à, tu dis, mais ma sœur est plus intelligente que moi, réussit mieux à l'école, c'est qu'il rate toujours ses examens parce qu'elle panique, c'est moi. Elle a du succès, moi j'en ai pas. Au travail, pourquoi c'est toujours ma collègue qui a la promotion, mon collègue qui a la promotion ? Si je suis un homme, pourquoi quand je vais sur la plage et que je vois les muscles des autres, ça m'énerve ? On a tous quelque part un complexe. Et vous voyez, nos complexes vont changer notre attitude et c'est les complexes qui vont changer l'attitude d'Élisée. Est-ce que c'est possible de voir ce que Jésus dit ? Regardez ce que notre Sauveur, dans le Nouveau Testament. Vous voyez, l'Ancien Testament, c'est des hommes qui ont le Saint-Esprit en eux, qui descend, ils sont remplis parfois de l'Esprit. Mais il y a des choses dans leur cœur qui ne sont pas transformées par Dieu. Et l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'il nous est servi, il nous sert d'exemple. Parce qu'on voit ce que des hommes et des femmes peuvent faire lorsqu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit transformer leur caractère. Et beaucoup d'hommes dans l'Ancien Testament ont une peur de l'Esprit de Dieu en eux. Mais ils ne transforment pas leur caractère comme Saül, comme Élisée. Et ça donne des résultats qui ne sont pas du tout pareils. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, Jésus dit, vous avez appris. Vous avez appris quoi ? Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et au verset 44 du chapitre 5, il est dit, eh bien moi je vous dis, aimez
vos ennemis et bénissez ceux qui se moquent de vous, qui vous persécutent, qui vous font du mal. Et prononcez des paroles de bénédiction sur ceux qui vous frustrent, qui vous bloquent et de qui vous êtes peut-être jaloux. Vous savez, les complexes vont inspirer des paroles que Dieu ne t'a pas inspirées. Et je suis rassuré du fait que dans le verset, moi des fois j'ai cru au début quand je lisais ma Bible que c'était normal et que Dieu était d'accord avec ça. Non, Dieu n'était pas d'accord avec Élisée. Parce que Dieu est dit, eh bien je vous dis, bénissez ce qui vous persécute. Mais seulement, cet homme qui est Élisée a laissé parler son complexe au lieu de laisser parler son cœur. On a tous des complexes qui sont liés souvent à notre passé, quelque chose d'extérieur que quelqu'un nous a dit. Si vous avez été nourri depuis que vous êtes petit avec un complexe, il y a une frustration qui se développe dans votre cœur. Si vous ne travaillez pas et si vous ne la présentez pas au Seigneur, ça va rester une fêlure dans votre cœur. Et le diable aura jusqu'à appuyer là où ça fait mal. Et tout le pu, tout le venin, tout ce que tu as à l'intérieur qui t'a meurtri va sortir d'un coup. Et c'est terrible parce que c'est ce que l'on voit dans ce cas-là. Élisée, il n'y a pas guéri. On a tous été victimes de certaines choses, de certaines phrases. Et ça nous a marqué. Des fois, il y a des complexes, en plus, ils ne sont même pas justifiés. Quand je vois ces adotes là qui sont anorexiques, je me dis, mais c'est quand même bête, purée. Tu ne fais même pas 40 kilos. Et tu te trouves grosse. Et moi, j'essaye. Et toi, tu essayes. Si tu connais quelqu'un dans ta famille qui est touché par ça, tu te dis, mais arrête, c'est n'importe quoi. Mais tu as une glace comme moi ou quoi? Mais tu es mec comme un clou, tu n'as rien. Qu'est-ce qui se passe là? La jeune fille va se priver, elle va se faire vomir, etc. Elle va passer une phase de boulimie, anorexie, etc. Parce qu'elle est remplie, elle n'accepte pas son corps. Elle vous dit, mais c'est pas possible, purée, t'es magnifique en plus. Mais la personne a cru un mensonge. Et ce mensonge est rentré dans son système de réflexion. Et c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment que Dieu change ton système de pensée quand tu as un complexe. Parce que tu auras beau entendre des autres, c'est pas grave, tu n'es pas vrai, etc. Tu es bloqué dans ton mensonge. Vous savez, il y a des mensonges qu'on se refile de génération en génération. Il y a des mensonges quasiment culturels. Je vais vous donner un exemple dans nos églises. Vous voyez, ce matin, je suis blanc. Là, pour le coup, tout le monde, là, le pasteur, il dit une vérité. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, je suis blanc. Hein. Il n'y a pas de doute, je suis blanc. Certains d'entre vous, vous êtes noirs. Il y a toutes les couleurs dans cette église. Et vous savez, on n'a pourtant pas le même passé culturel. Et on a tous des complexes culturels. Alors, je vais commencer par le complexe de nous, les yaourts. Là. Nous, les yaourts, quand on va dans une église, on est marqué parce que ce qu'a été les histoires de la France profonde, qui date des siècles. Alors, moi, quand je vais dans une église de blancs, il y a des clichés. Et qui remontent. Moi, je viens d'un village, là, mes parents habitent un village qui s'appelle Daoulas, dans lequel il y a une abbaye. Et l'abbaye, elle est juste magnifique, parce que certainement, les catholiques, à l'époque, ont eu beaucoup d'argent. Le village était carrément entièrement géré, à un moment, par l'abbaye. Et vous voyez, dans les registres du village, on apprend que lorsque une femme perdait son mari, l'abbaye prélevait un impôt sur la mort qui obligeait la femme veuve à donner soit son bœuf, soit sa vache, soit son cochon. En gros, son moyen de subsistance. Alors, pendant des générations, jusqu'en 1789, mon peuple a développé un complexe de dire « la religion, tous des voleurs. La religion, attention, manipulation, religion, manipulation. » Et vous allez à la télé et vous voyez que nos journalistes, on est remplis de complexes. Religion, pff, c'est un truc, ça. Tout ça, c'est une histoire d'argent. Si vous avez des collègues blancs, là, non, c'est pas ça qu'ils disent. La religion, oh là là, il y a des gourous, il y a des gens, oh, regarde bien. Parce que c'est notre culture, on a été marqué par ça. Et on ne s'en sort pas de ce complexe. D'ailleurs, dans une église de blancs, vous verrez rarement l'offrande passer 10 fois. Parce qu'au bout de la première fois, il y en a déjà qui râlent. Je me dis, mais comment ça se fait que dans des églises africaines, il y a des pasteurs qui arrivent à faire passer 15 fois l'offrande et il n'y a personne qui dit rien? Vous n'avez jamais posé la question? Parce que nous, on est hypersensibles là-dessus. Religion, manipulation, voleur. Donc, le pasteur, il ferait passer deux fois, il est arrêté à la fin. Mais quand vous allez dans une église de blacks, que j'aime génial, j'y suis allé récemment, il y a un verset qui m'a marqué. C'était un slogan chez eux. Et je comprends, c'est « Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes la tête et non la... » J'ai jamais compris ce verset. « Vous êtes la tête et non la queue. » Alors, et quand dit ça le pasteur, il y a tout le monde qui dit « Ah, merde !»« Preach, pasteur !» D'accord. Qu'est-ce qui fait que, quand on leur dit ça, après, on vous dit « Non, mais Jésus fait de toi un champion !» Vous entendez « Amen !» Une star. Et c'est vrai. Mais et moi, je me dis, mais c'est bizarre quand même qu'ils aient besoin de le dire autant. Parce qu'ils le savent qu'ils sont des enfants du roi. Pourquoi on doit leur répéter tout le temps que c'est des champions et des stars? Parce que il y a un vieux complexe qui traîne. Et du coup, les pasteurs, des fois, surfent sur la vague des complexes et te caressent dans le sens du poil pour que tu te sentes bien. Et c'est vrai chez les Blancs par rapport à leurs complexes. Et on est tous. Et je suis triste parce que je me dis que lorsqu'un pasteur comme moi, des fois, a honte de parler d'argent, je lui dis c'est dommage parce que je limite des fois l'action de Dieu. Parce que je renforce le complexe de nous, les Blancs. Et puis, je pense qu'un pasteur qui est sans arrêt obligé de dire à son auditoire, d'expression africaine, que c'est des champions, c'est des stars, mais c'est des sucettes, quoi. Il y a un moment où si tu réalises que tu es une enfant de Dieu, une fille du roi, ben c'est bon. De toute façon, Dieu nous a créés égaux, absolument égaux. Il nous aime absolument autant que l'on vienne d'un pays où il y a eu de l'esclavage, des abus, etc. Mais aujourd'hui, en 2013, je suis une fille du roi. Aussi bien qu'un blanc, aussi bien qu'un black, aussi bien qu'un asiatique. Vous voyez, et il y a un moment où je dis, Seigneur, fais-moi grandir en tant que blanc sur mes complexes pour que j'ai plus besoin toujours d'être nourri dans le sens du poil pour ne pas être choqué. Et je dis, il y a une étape où Dieu veut t'amener pour que tu grandisses dans ta foi, qu'on n'ait plus besoin de toujours faire référence à ce qui, dans ton passé ou dans ta culture, t'a blessé. C'est compliqué ce que je dis ce matin. Je vous ai peut-être perdu, là, mais... C'est vrai que vous êtes la tête et non la queue. Et c'est tellement vrai qu'au bout d'un moment, je n'ai même plus besoin de le dire. Et tu seras complètement guéri le jour où tu n'auras plus besoin de le dire. Vous comprenez l'idée? Parce que c'est... Moi, j'étais presque choqué en inversé. Je me dis, mais c'est tellement évident. De la même façon qu'un pasteur qui vient d'une expression africaine peut dire mais c'est tellement évident que le Seigneur mérite notre argent, mais ça ne se pose même pas comme question. Parce qu'ils n'ont pas le problème. Ah là là, on est tous décomplexés. Hein. Alors, mais je vais vous montrer ce que nos complexes peuvent faire. Ah, est-ce que c'est possible de me mettre... Attendez, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Allez, suivez-moi. Vous êtes sur la plage, parce que c'est un peu fini les vacances, donc on va parler encore de la plage. Pendant quelques temps, je peux parler de ça. Vous êtes sur la plage. Vous voyez un homme qui sort en train de jouer au foot, qui fait des jongles avec des lunettes de soleil, petit short, torse nu. C'est Georges. Non, pardon, Georges était l'autre. C'est Robert, on va l'appeler Robert. C'est Robert. Alors, regardez attentivement ce Robert, qui va s'afficher bientôt. Robert, qu'est-ce que vous pensez de Robert? Rien. Rien. Maintenant, regardez un autre qui est sur une plage, qui n'a pas de lunettes de soleil, qui s'appelle Brad. Et vous voyez, j'entends dans les... Il y a un truc bizarre dans les... Parce que ce Brad Pitt, vous voyez, vous savez pas quoi? Il se la joue. C'est vrai, non? Tous les complexés, quand ils voient ça, ils disent, ils se la jouent. Brad Pitt n'a pas pris de lunettes de soleil, il a simplement ouvert sa chemise. Il a plus d'habits que Robert. Remettez l'image de Brad Pitt. Brad Pitt n'a pas de lunettes de soleil. Pourtant, Robert en a. Vous comprenez l'idée ? Si vous voyez Brad Pitt, torse nu, complètement en train de jouer au foot avec des lunettes de soleil, tous les complexés dont je fais partie vont dire ah, il le sait, il en joue, quel prétentieux. Ah là là, vraiment, tout pour les yeux, la caméra. Pff, léger ce gars-là, léger. Et vous savez pas quoi ? Pourquoi Robert me pose aucun problème ? Parce qu'il me menace pas ? Parce que lorsque je suis à côté, amène-moi mon ami au beau bidon, là, Robert. Juste celui qui joue au ballon, voilà. Quand je suis à côté de lui sur la plage, je suis à côté de ma femme, il n'y a pas de souci. Je parle à Nathalie très tranquillement, j'ai dit Nathalie, ça va, on passe un bel été. Mais si je vois Brad, vous rigolez, vous m'humiliez là. Attention, vous ne poussez pas non plus, je ne suis pas complètement guéri. Hein. Mais si je vois Brad Pitt qui sort de l'eau, je dis Nathalie, regarde ça, quel esprit du monde. Il a rien fait. Il m'a pas agressé. Il m'a pas critiqué. Il m'a même pas regardé, pas calculé. Mais déjà, je suis en train de le juger. Alors que je jugerai pas l'autre parce qu'il est... C'est pas un canon, donc il menace pas. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que vos complexes vont changer la façon dont vous voyez les gens. Et plus vous êtes complexé, et plus vous serez critique. Parce que vous aurez du mal à supporter que l'autre soit ce que vous n'êtes pas. Vous aurez du mal à supporter que l'autre n'ait pas les problèmes que vous avez. Et c'est pour ça que c'est très très difficile, lorsque vous avez des problèmes à vous exprimer, de voir quelqu'un qui arrive et qui... Il n'est pas profond certainement, il parle tout le temps. Et vous, cette phrase c'est quoi ? Quand vous dites les « de toute façon », c'est mal parti. Les « de toute façon » dans ma vie sont généralement liés à un complexe. De toute façon, elle est comme ça. De toute façon. Et ça bloque, et c'est une protection. Et en fait, le complexe, vous avez survécu à votre complexe en réfléchissant et en disant, c'est pas grave, je suis un peu grosse, mais tant pis, le Seigneur m'aime quand même. Et ça reste un complexe. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne souffre pas de ça, vous vous comparez. Alors l'origine des complexes, c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. D'où elle vient chez Élisée ? Ça vient du jour où il a perdu ses cheveux ? Je ne suis pas complètement sûr. Parce que je pense que tes complexes, ça dépend des circonstances, de comment tu grandis. Et Élisée a grandi dans l'ombre d'un géant. Et plus vous aurez des géants autour de vous, et plus vous aurez tendance à développer des complexes. Et c'est très dur d'avoir un Élie avant vous et que vous êtes un Élisée. Parce que vous vous comparez, la preuve, reprenez le chapitre 2, il faut que j'accélère, le chapitre 2, au verset 5, regardez comment ça s'est passé tout ça, d'où ça vient. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Je le fais en français courant. « Sais-tu, Élisée, que demain tu n'es plus rien ?» Sais-tu, Élisée, que celui que tu accompagnais, la star de ta vie, va plus être là et ça va beaucoup te changer de choses parce que tu vas retomber un prophète comme nous tous. Oui, je le sais, moi aussi, et ne m'en parlez pas de cela. Élie dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre au Jourdain. Mais Élisée, il lâche pas l'affaire, Élisée, parce que sans Élie, il n'est plus rien. Alors il dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. Et 50 disciples, oh, les gens, ils parlent. Les gens vont vous comparer. Votre famille, la tata, va vous comparer. 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Les autres vous regardent. Alors Élie enleva son manteau, le roula, en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils ne purent traverser tous deux à sec. Et lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Et Élisée répondit, pendant longtemps j'ai cru que c'était super spirituel, mais en fait je me dis c'est peut-être aussi du complexe, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Ça va pas bien, papa. Et si tu pars, je vais avoir du mal à tenir. Je veux le double pour compenser le fait que je sois. Vous avez compris l'idée. Élie répondit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne vois rien, il n'en sera rien. Ne vois pas, il ne s'en sera rien. Pendant qu'il continue à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu, vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages !» Puis il le perdit de vue et saisissant ses vêtements, alors ses vêtements, il les déchira en deux. « Je suis dégoûté !» Il perd. Ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Il revint sur ses pas, s'arrêta sur la rive du Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du Jourdain? Si vous avez suivi le texte, il y a les frangins qui regardent. Et regardez comment Élisée va agir. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria « Où est l'Éternel, le Dieu de l'autre ?» d'Élie. Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, puis il traversa à pied sec. Amen. On a le droit de dire Alléluia comme c'est beau ce que Dieu fait. Parce que Dieu est le Dieu d'Élisée autant que le Dieu d'Élie. Arrête de croire que Dieu est le Dieu des autres. Dieu est ton Dieu de la même façon. Mais Élisée, il est encore dans la comparaison. Les disciples des prophètes de Jéricho, qui le virent d'en face, s'exclamèrent, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Et ils appuient exactement là où ça fait mal, mais bon, dans un sens positif, ils le comparent à Élie, Élisée, Élie, ok. Et ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils vont exactement dans son sens. Ils sont complètement dans la comparaison et ils le reconnaissent comme le successeur d'Élie. Donc la comparaison, pour cette fois-là, elle est flatteuse. Et c'est après que Élisée, dans son parcours pour ressembler à Élie, si vous suivez, je n'ai pas le temps de développer ce matin, mais il va reprendre exactement le parcours inverse de Élie, comme pour se prouver qu'il est capable de faire pareil. Il va partir donc du Jourdain jusqu'à Jéricho, de Jéricho jusqu'à Bethel, de Bethel jusqu'à remonter jusqu'au Carmel, et de Carmel, il va repartir à Samarie, le chemin inverse. Mais vous voyez, il est dans la comparaison et il est en train de vouloir que Dieu soit le même. Mais Dieu est le même. Et de Jéricho, alors qu'il monte vers Bethel, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes crevé, épuisé et complexé en même temps par une bande d'adolescents stupides qui ne comprennent pas que vous venez de faire une centaine de kilomètres pour leur apporter la vie, comme vous l'avez apporté à la ville d'en bas qui s'appelait Jéricho, que vous avez fait des kilomètres et des kilomètres à pied, comme dit dans le sud, sous le cagnard, sous le soleil, pour que ces petits gamins là, ils soient bénis par Dieu. Et que la seule chose qu'ils font en descendant de la ville, c'est « Vas-y, chaud, vas-y !» Vous êtes épuisés et ils appuient sur le complexe et ce qui sort, c'est la malédiction. Et quand tu es crevé et que tu rentres de ton travail et que tu parles à tes enfants, fais attention. Et lorsque tu as été humilié pendant la journée, humilié la semaine, et que tu arrives à l'église et que tu parles, fais attention. Il va donner la mort. Et c'est quelque chose de terrible, mais quand on est fatigué, on est dangereux. Fatigué et complexé, on est très dangereux. Je me rappelle, je vous donne un exemple, une illustration. J'étais en colo, j'ai beaucoup aimé, moi j'aimais beaucoup les enfants, j'aime toujours beaucoup les enfants. Et il se passait un truc, c'est que les enfants, ils me l'ont rendu mais mille fois, quoi. J'aimais les enfants et les enfants m'aimaient bien. Et vous savez, un enfant, il est très exagéré. Quand il aime bien quelqu'un, il aime vraiment. Et du coup, moi, mes enfants, en colo, mon bungalow, ils m'obéissaient au doigt et à l'œil. On avait des activités géniales. Du coup, en contrepartie, moi, je leur faisais des petits cadeaux, comme par exemple, comme je savais qu'ils obéissaient bien à l'heure où je leur disais de se coucher, bah, je leur donnais des quarts d'heure de plus, des demi-heures de plus. Vous voyez, quand vous pouvez faire confiance, quand il y a de la confiance et que ça marche, vous pouvez être cool. Donc, j'étais cool. Donc, moi, quand j'arrivais dans mon bungalow, je faisais coucher mes enfants plus tard. Donc il y avait tous les bungalows à côté. Ouais, il y en a marre, le bungalow divan, il se couche plus tard. Mais en fait, les premiers à ne plus parler, c'était les miens. Parce que les autres, ils les couchaient comme des poules à 18h. Mais les gamins, jusqu'à 4h du matin, ils leur faisaient la rumba, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas les instruments, mais c'était pareil. Et les monos, ils sortaient avec des yeux complètement... Moi, j'étais tout frais le matin, alors que je les avais couchés plus tard. Pas juste ! D'ailleurs, un jour, je suis parti. Vous savez, quand vous êtes mono, tous ceux qui ont été mono, là, vous dites, preach pastor, c'est vrai, vous avez de temps en temps un jour de repos. Je dis de temps en temps parce que les directeurs, des fois, bon, bref. J'avais eu le droit à un jour de repos, j'étais parti en repos. Je reviens de mon jour de repos, en forme, je vais retrouver mes enfants, et là, je vois une de mes animatrices, une de mes collègues animatrices, qui fonce vers moi. Et là, je me dis, elle n'est pas là pour me bénir. Elle vient vers moi, elle fonce vers moi, elle dit, « Qu'est-ce que t'as dit à mes filles ?» J'ai dit quoi, tes filles ? J'ai rien dit à tes filles. Non, 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 elle me dit. Tu leur as dit qu'elles pouvaient se coucher plus tard. J'ai rien dit du tout. Elle me dit, de toute façon, ça aurait pu être ce que tu as dit. J'ai dit, mais je ne l'ai pas dit. Elle dit, mais de toute façon, tu aurais pu le dire. J'ai dit, écœuré. Je dis, non. Mais vous voyez pourquoi elle m'a agressé ? Parce qu'elle avait passé une nuit épouvantable, parce qu'elle n'avait pas eu l'autorité sur ses filles, et parce qu'elle était énervée que moi, je n'ai pas les problèmes qu'elle est là. Vous comprenez l'idée ? Parce qu'elle s'est comparée. Et parce que... Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande d'être ce que tu es. Elle a des problèmes que je n'ai pas, j'ai des problèmes qu'elle n'a pas. Mais si je commence à me comparer à elle et si elle commence à se comparer à moi, on va se détruire. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est complexé. Elle ne va pas supporter et elle va me voir avec un regard malveillant. Et c'est ce qui s'est passé quand Élisée a vu ses ados, alors que je suis sûr que Élisée, dans une autre circonstance, aurait pu les bénir, ses ados. Mais là, il les a maudits. Tu projettes des images sur les autres. Je vais conclure. Tu sais, quand tu es complexé, je me suis rendu compte que les complexés, c'est souvent des gens très intelligents. Et ils passent des heures sur leur complexe, à essayer de comprendre et à essayer surtout de vaincre leur complexe et de s'en sortir. Et quelque part, tu passes tu galères, tu souffres tellement et tu as tellement réfléchi là-dessus que tu n'imagines même pas que les autres puissent être... Enfin, n'aient aucun problème avec ça, ça t'énerve. Ça t'énerve. On devient souvent cynique quand on voit quelqu'un qui n'est pas passé par les difficultés par lesquelles on est passé. C'est difficile d'accepter que l'autre... Je vous donne un exemple. Si jamais vous avez du mal à vous exprimer, toutes les phrases vous coûtent. Quand on vous demande de partager un exposé à l'oral, ça vous stresse quelque chose de fou. Et il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir tellement de facilité. Ça coule, il a tout de suite les mots. Et le dimanche, il vous dit une petite phrase. Vous la prenez mal, cette petite phrase. Et dans votre tête, la personne qui vous l'a dite a forcément fait exprès. Parce que vous, lorsque vous parlez, ça vous demande tellement de réflexion et tellement d'efforts que vous ne pouvez même pas imaginer que l'autre l'a dit juste comme ça. C'était peut-être stupide, comme les enfants auprès d'Élisée ont été stupides. Mais est-ce que ça vaut la peine de les maudire ? Vous voyez ça ? Vous comprenez ce que je veux dire ce matin ? On va surréagir parce qu'on est complexé. Alors, mon verset de conclusion, c'est un verset que... tu connais par cœur et que tu n'appliques pas. Ou plutôt que tu appliques pour ton malheur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, tout ton cœur. Et quoi ? Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Alors, je vais vous dire la vérité. Vous n'aimez pas beaucoup votre prochain parce que vous vous aimez pas beaucoup vous-même. Et si vous ne vous aimez pas beaucoup vous-même, eh ben vous appliquerez le verset « J'aime mon prochain, mais vu que je ne m'aime pas, eh ben je ne l'aime pas non plus. » Et les personnes complexées n'aiment pas facilement leur prochain. Et la Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Et c'est pour ça que le verset d'avance est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Il faut que tu sois rempli de l'amour de Dieu, parce que sinon le verset concernant le prochain, ça sera de la malédiction au lieu de la bénédiction. Vous savez, il y a un jeune homme riche qui est arrivé en face de Jésus et qui a dit « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Pour avoir la vie ! » Pardon, non, non, pas pour être sauvé. « Pour avoir la vie ! Pour avoir de l'abondance, pour avoir de la vie !» Et Jésus lui répond « Alors, qu'est-ce que toi tu en penses ? Qu'est-ce qu'il faut ?» C'est dans Luc 10, il répondit au verset 27 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus répond au verset 28 « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Vous voulez donner la vie ? Est-ce que vous voulez donner la vie ? Aimez-vous. Et aimez votre prochain, comme vous vous êtes aimé avant. Il y a des choses que je dois dépasser dans ma vie. Il y a des choses que Dieu dit, je veux que tu les dépasses parce que tu es en train de tourner en rond là. Il y a une amertume que tu gardes dans ton cœur et tu gémis et tu te plains et tu dis les autres sont méchants envers moi, je ne suis pas compris, je suis méprisé, ils se moquent de ma chevelure, ils se moquent de parce que le fait que je sois chaud, que je n'ai pas ce qu'il faut, que je ne suis pas belle, je ne suis pas comme l'autre. Et Dieu te dit, là, tu es en circuit fermé et tant que tu restes là-dedans, ce qui sortira de toi, ça sera de la malédiction. Alors maintenant, écoute, Dieu te dit, tu es une créature. Mais ne le dites pas si vous ne le pensez pas. Mais tu es une créature merveilleuse. Il ne t'a pas raté. Il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Seigneur, je ne comprends pas qu'en ayant pris autant de soins, tu m'aies raté sur les oreilles. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, il y a un moment où j'ai dit à Dieu, je sais, vous ne comprenez pas, mais moi, je ne comprends pas votre anorexie non plus. Hein. Mais vous voyez, il y a un moment où je dis, Seigneur, je te loue. Je te loue, même pour mon 8 en maths au bac, je te loue. Parce que ce n'est pas ça qui définit qui je suis. Vous voyez, vous apportez tout ce qui fait que les autres vont dire, ah, t'es moins bien que ton frère, hein, t'es moins bien que ta sœur. Vous l'apportez au Seigneur et vous dites, Seigneur, t'as pas raté la copie, t'as pas raté ma vie quand tu m'as façonné. Alors j'arrête toutes ces idées qu'un jour on m'a mises et que je garde maintenant dans ma tête pour mon malheur et celui des autres. Et c'est peut-être pas ça que tu as appris ce matin, c'est que c'était pas seulement ton malheur. Quand tu es complexé, tu fais le malheur des autres. On va fermer les yeux ensemble. Quelqu'un peut-être ce matin a besoin de demander pardon à Dieu. Et a peut-être besoin d'aller parler à quelqu'un. D'ailleurs, à qui tu n'as jamais parlé, parce qu'elle t'énerve tellement que tu ne lui as jamais parlé. Peut-être c'est quelqu'un de ta famille que tu trouves insupportable, prétentieuse, sûre d'elle. Et tu dis, cette personne-là, elle n'est pas intéressante. Et Dieu te dit, cette personne-là, c'est moi qui l'ai faite. Je l'aime d'un amour éternel comme je t'aime d'un amour éternel. Alors va commencer à la bénir et je ferai de toi une source de bénédiction. Et tu seras comme était Abraham, le père des croyants, une source de bénédiction. Alors je donnerai la vie dans ton foyer. À toi qui es stérile, je donnerai la vie. À toi qui dans ton travail est stérile, je donnerai la vie. À toi qui dans tes finances est stérile, je donnerai la vie. À toi qui dans tes relations avec tes amis, t'en as pas, t'es isolé, eh ben je te donnerai des amis si tu apprends à bénir. Alléluia. Donnez et l'on vous donnera. Bénissez et vous serez bénis. Alléluia. Seigneur, je te prie pour moi maintenant. On va fermer les yeux ensemble. On va demander à Dieu qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Tu ne te sens pas aimé. Tu ne t'aimes pas. Tu sais que Dieu t'aime et tu as du mal à l'accepter aussi. Commence par là. Seigneur, révèle-moi ton amour. Montre-moi qui tu vois en moi. Donne-moi les yeux de Dieu, les yeux d'un papa dans le ciel, pour que lorsque je dis notre Père, mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, je ne sois pas déjà en train de me complexer, mais je suis en train de dire waouh, j'ai une ADN spirituelle géniale. On va se lever ensemble. Oh Jésus, viens me transformer, Seigneur.
Thank you.
Oh, c'est bon. C'est bon parce que Dieu est tellement touché quand tu bénis les autres. Commence à dire du bien de quelqu'un de qui t'as pas toujours pensé du bien. Peut-être aller juste pas forcément très fort, mais commence à dire merci pour cette personne. Elle est vraiment très belle. C'est vrai, Seigneur, je suis pas comme elle, mais je la bénis en ton nom. Commence à prier pour ta collègue insupportable et dis, Seigneur, je la bénis en ton nom. Pour ce papa qui t'a jamais donné d'amour, commence à dire, Seigneur, je te bénis pour lui. Ça va remuer des choses, attention, ça va remuer des choses. Mais comment tu nous as bénir? Alléluia. Parce que tu seras complètement guéri lorsque tu te réjouiras des gens qui ne sont pas comme toi et qui ont tout ce que tu n'as pas. Oh, alléluia. Tu sais, Jésus avait tout. Il était dans le ciel, il était dans les palais de gloire, d'ivoire, etc. Et je bénis Dieu parce que mon Seigneur n'était pas trop complexé. Il a osé descendre dans une étable. Oh, j'aurais du mal, hein. Mais vous voyez, il a dit, c'est pas grave. On y va pour la mangeoire, on y va pour l'étable. C'était un roi d'éternité. Mais il dit, mes amis seront ceux qui me ressembleront. Ils laisseront ça de côté pour louer Dieu. Quel que soit ton portefeuille, quel que soit tes... Oh, alléluia. Toi, la lumière qui a vu mes ténèbres, Seigneur. Ouvre mes yeux sur moi-même et sur toi, sur les autres aussi, je veux voir.